Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Société. Nick Payne au micro, bien sûr en face de moi. Tiens, dans le coin droit, Rémi Villemur, étudiant doctorant en sociologie, détenteur d'une maîtrise en histoire. Bonjour Rémi Villemur.
Bonjour Nick Payne.
Et Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois, se cherche une chaise, je pense que vous l'avez trouvée. Bonjour Frédéric Lapointe.
Oui, est-ce que le micro fonctionne?
Ça marche bien.
Le micro fonctionne, c'est parfait.
De votre chaise politique là, ou de votre chaise professionnelle. Vous cherchiez une chaise physiquement dans le studio ici. Vous l'avez?
Oui, je suis bien assis sur une seule chaise, là, pas sur deux.
Entre deux, comme certains dont nous allons peut-être parler aujourd'hui, ou comme certains dont nous allons parler aujourd'hui le sont peut-être, en tout cas, assis entre deux chaises. On reviendra là-dessus dans un instant. Guillaume Rousseau est avec nous également. Il est désormais chroniqueur au Journal de Montréal, hein, entre autres fonctions. Bonjour, Guillaume Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes aussi parmi ces juristes, ces avocats qui ont eu une belle victoire là, à la Cour au sujet dans le dossier de la loi 21, n'est-ce pas, Guillaume Rousseau?
Oui, effectivement, j'ai la chance d'être un des avocats du mouvement laïque québécois avec Maître Luc Allary. Et effectivement, c'était une belle victoire pour nous, pour notre client, pour la cause de la laïcité, aussi pour l'équipe du procureur général du Québec qui ne fait pas beaucoup de communication. Donc, on a été beaucoup mis de l'avant, les avocats du mouvement laïque, puis on est bien contents parce qu'on a travaillé fort, là, mais ça vaut la peine de souligner aussi que l'équipe du procureur général, là, les avocats, entre autres Isabelle Brulet, Manuel Klein, ont fait du bon travail, mais nous aussi, puis je pense que c'est une belle victoire pour le Québec.
Bon, mais écoutez, on a l'impression de quelqu'un qui est allé chercher son Félix sur la scène. Vous auriez pu remercier votre famille aussi. Mais voilà. Bref, bravo, Guillaume Rousseau. Par contre, tiens, puisqu'on vous parle, un instant, continuons un instant sur ce sujet. Pensez-vous que le vent pourrait tourner en Cour suprême ou que, enfin, l'épreuve pourrait être plus difficile à tout le moins?
Ben moi, je fais partie de ceux qui pensent que la Cour suprême pourrait, c'est pas certain, mais pourrait refuser d'entendre l'appel. D'ailleurs, ça va être la position de mon client, là, de que la Cour suprême refuse la permission d'en appeler, là, qui va être formulée par les opposants à la loi sur la laïcité.
Alors, on peut puis plaider une telle chose.
Comment?
Alors, on peut plaider une telle chose. On peut dire qu'il n'y a pas motif là-dedans à ce que la Cour suprême reprenne le dossier.
Oui, effectivement. Donc, nous, on va s'opposer, entre autres parce que le jugement de la Cour d'appel est unanime. Donc, quand vous avez un jugement de la Cour d'appel où il y a deux juges qui disent une chose, un juge en dit une autre, ben là, évidemment, ça l'ouvre la porte à la Cour suprême. Ou encore, à fortiori, quand vous avez une Cour d'appel, par exemple, de l'Ontario qui dit une chose sur un même article applicable dans une autre province, et là, la Cour d'appel, par exemple, du Québec dit autre chose, ben là, ça justifie vraiment que la Cour suprême vienne un peu uniformiser le droit, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une question de droit constitutionnel canadien. Or, là, sur la clause dérogatoire, la Cour d'appel du Québec et la Cour d'appel de l'Ontario disent la même chose parce qu'il y a eu une autre affaire touchant la clause de la disposition de souveraineté parlementaire en Ontario. Alors, tout ça mis ensemble, puis la solidité du jugement, la Cour n'hésite pas, soupèse pas très longtemps les arguments pour finalement, par un poil de grenouille, décider que c'est les arguments en faveur de la loi qui l'emportent. C'est un jugement qui écarte complètement et sans ménagement tous les très mauvais arguments qui ont été plaidés contre la loi, sauf un. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pas déraisonnable de penser que la Cour pourrait ne pas entendre l'appel. Puis en même temps, ce serait stratégique pour elle, pour la Cour suprême, parce qu'elle se garderait pour la foi hypothétique éventuelle où la loi reviendrait devant les tribunaux, mais sans la disposition de souveraineté parlementaire, où là, il y a encore plus de possibilités pour les tribunaux de s'exprimer.
Intéressant à suivre, donc, Guillaume Rousseau. Puis, j'ai comme l'impression qu'on vous reparlera à ce sujet. Commençons nos sujets du jour. Ben, c'en était un, finalement, mais évidemment, Frédéric Lapointe, tiens, je commence avec vous. Dans le fond, la nouvelle, c'est pas le budget, c'est le déficit de 11 milliards du Québec dans ce budget déposé par le ministre Girard, qui a surpris tout le monde, pas le ministre, mais le déficit. Est-ce que vous avez été surpris, vous aussi? C'est énorme. C'est trois fois ce qu'on prévoyait à l'origine. C'est quand même plus que ce que ceux qui croyaient que ça allait être plus élevé que prévu pensaient. Et puis, c'est historiquement à peu près le plus gros déficit jamais vu. On parle d'un déficit dans les années 90, là, qui avait, en dollars d'aujourd'hui, pas tout à fait atteint ce plateau des 11 milliards.
Oui, en proportion du produit intérieur brut, il y a eu des déficits plus importants, mais en dollars, courants, c'est le déficit le plus important. Non, je n'étais pas surpris.
Même à cette hauteur-là?
Même à cette hauteur-là. Écoutez, le gouvernement, pour des motifs hors de son contrôle et pour des motifs sous son contrôle, a couru après. Motif hors de son contrôle, je vais en nommer trois. Le premier, c'est notre relative explosion démographique. Hein, tout ça tire les coûts vers le haut et tire d'abord les coûts vers le haut avant de tirer les recettes vers le haut, hein, quand il faut.
Même si Québec est en explosion démographique moins forte que le reste du Canada, apparemment.
Exact, exact. Ben, moins forte, ça dépend des provinces. Hein. Il y a l'Ontario là, qui nous dépasse, là, mais eux sont habitués depuis longtemps. Nous, c'est relativement subi. Hein. On a un demi-million de plus d'habitants en 2-3 années. Mm-hmm. C'est assez massif, c'est assez inédit et on n'était absolument pas préparé à ça. Il faut embaucher davantage de gens, il faut construire des installations. Tout ça coûte de l'argent. Deuxièmement, les taux d'intérêt, ça c'est prévisible comme la marée, là, les taux d'intérêt qui augmentent le coût du service de la dette. Et là, on parle de centaines de millions de dollars chaque année supplémentaires. Parce que c'est un peu comme les hypothèques. Hein? Les gens renouvellent leur hypothèque, ils voient la différence sur leur dans leur compte de banque.
Voilà, à chaque point, à chaque quart de point de pourcentage, vous voyez la différence en dollars sonnants et trébuchants.
Et là, le gouvernement...
Plutôt trébuchants que sonnants, d'ailleurs.
Et là, le gouvernement, c'est pareil. Il remplace des obligations qu'il a négociées à 1,5-2%. Il les remplace par du 5, du 5,5 ou peut-être du 3,4 si c'est à très long terme. Mais de toute façon, sur des dizaines de milliards, ça a un effet. Puis le troisième élément qui est hors de son contrôle, c'est les conventions collectives. Il est un peu inévitable qu'on augmente les conditions salariales des employés de l'État. Mais tous ces facteurs qui sont hors de son contrôle sont aggravés par celui qui est absolument sous le contrôle du gouvernement et ses recettes fiscales. Le gouvernement, sachant d'ailleurs que les difficultés étaient devant. Il savait qu'il s'en allait en négociation de convention collective. Il voyait l'augmentation de la population.
Il a quand même choisi de baisser les impôts.
Et ils l'ont fait avant que ce soit évident pour tout le monde que c'était une mauvaise idée. Mais eux le savaient. Tout le monde au ministère des Finances à Québec le savait. Ils ont formulé des conseils à l'effet de ne pas le faire parce que, évidemment, qu'il y aurait un déficit aggravé par la suite. C'était tellement évident que pour financer les baisses d'impôts, ils ont réduit les cotisations au fonds des générations.
Oui, mais j'allais vous demander, est-ce que la mauvaise décision, c'est de baisser les impôts, malgré ce qui s'en venait, qu'on savait, ou est-ce que c'est de ne pas avoir, coupé en conséquence, réduit des services? Il y en a qui vous diraient ça. Tous ne sont pas, même aujourd'hui, convaincus de l'idée de ne pas baisser les impôts, loin de là, en fait. Hein? Plusieurs reviennent avec cet argument, disant que les Québécois sont lourdement taxés, il faut coûte que coûte, et l'expression prend tout son sens ici, réduire ou à tout le moins ne pas augmenter les impôts ou ne pas suivre, si vous voulez, avec les impôts, le coût de la vie qui augmente. Est-ce qu'il n'y aurait pas... parce que vous parlez un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon, Frédéric Lapointe, au fond, d'augmenter les recettes. Hein? Là, certains vont vous dire, oui, mais ça suffit des taxes et des machins coûteux.
Manifestement, ça ne suffit pas. Il faut payer pour les services qu'on se donne.
Mais alors, est-ce qu'on en donne trop? Est-ce qu'on ne pourrait pas couper? Est-ce qu'une révision des programmes?
On peut faire des choix. Les libéraux de Philippe Couillard, d'ailleurs, l'avaient fait et a laissé au gouvernement caquiste un surplus budgétaire structurel important.
Et ils ont payé un fort coût politique pour ça.
Oui, d'ailleurs, mais parfois, il faut faire de la politique pour arriver à des résultats, pas simplement pour de la popularité temporaire. Mais les impôts au Québec baissent depuis 1999, hein, depuis que Bernard Landry a baissé les impôts de façon importante en 1999-2000. Les impôts n'ont pas augmenté au Québec. Ils ont diminué avec le gouvernement de Jean Charest. Ils ont rediminué maintenant avec la CAQ. Donc, évidemment que les gens oublient ça. Les gens pensent que le chômage est élevé au Québec. On est en plein d'emploi. On ne peut pas se fier à la perception des gens, hein, pour gérer des choses importantes comme les grands équilibres financiers.
Alors, vous auriez dit, on ne baisse pas les impôts.
Il fallait pas les baisser. C'est la décision la plus irresponsable qui a été prise par un gouvernement depuis que Jean Charest a baissé les impôts avec les fruits du déséquilibre fiscal. C'était irresponsable et on en paye les prix présentement.
Rémi Villemur, rembobinons tout ça. Déjà, le déficit de 11 milliards, ça vous étonne, vous?
Oui, ça m'a étonné parce qu'on avait parlé de 3-4, mais...
Peut-être de 6-7, je ne sais pas si ça allait très mal.
Mais moi, je suis assez convaincu là, par l'argument caquiste qui consiste à dire que c'est 1,5% du PIB. Vous savez, plus on avance dans le temps, plus en chiffre absolu, ça devient impressionnant, l'argent. Je veux dire, 10 millions aujourd'hui, 10 milliards dans le temps, 10 milliards aujourd'hui, c'est pas le même outil de mesure, mais c'est le pourcentage qu'il faut regarder. C'est un budget qui fait mal quand même, parce que on se rend compte que finalement, la CAQ là-dedans a pris des décisions qui sont beaucoup en lien avec la dimension électorale. On s'en rend compte, là, qu'ils ont voulu donner des cadeaux pour se faire élire. Ils n'avaient peut-être même pas besoin de le faire, hein, on s'en rappelle, là, à l'élection. Là, c'est, beaucoup de gens avaient déjà vu ça en se disant « Mais voyons donc, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils ont déjà la majorité. Pourquoi ils font ça? On va vivre les conséquences plus tard. » Regardez aussi l'augmentation du budget du ministère de l'Éducation, c'est près de 10 %. Moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu ça, là.
Mais est-ce qu'on devrait pas justement être en train de célébrer ça? Est-ce qu'on est trop dur avec les caquistes à l'heure actuelle?
Ben, je pense que oui, mais regardez, qui est contre l'augmentation du budget du ministère de l'Éducation? C'est assez difficile d'être contre ça, sauf que pourquoi on investit plus?
C'est difficile d'être contre, mais au Québec, c'est pas ça qui vous fait perdre ou gagner des élections, hein? Investir plus ou moins en éducation.
Non, mais c'est une grosse partie de la tarte, là, cette augmentation-là de 10 %, 4 % et quelques pour le ministère de la Santé. Mais le 10 % en éducation, il y a presque 1 milliard qui est consacré au rattrapage scolaire. Donc, les jeunes là, qui en ont pris plein la gueule apparemment durant la COVID. Moi, j'ai beaucoup de difficulté à croire ça, franchement. Là, mais je veux dire, je m'excuse, mais je pense que c'est pas la fin du monde là, de vivre, de faire de l'école à la maison pendant un an ou un an et demi. Là. Mais bon, il paraît que ça a été l'enfer. C'est pas mon champ d'expertise. Mais il y a 1 milliard qui est consacré à ça. Puis il y a beaucoup d'argent aussi qui est consacré à l'ouverture de nouvelles classes d'accueil pour les enfants des réfugiés. Mm-hmm. Ça aussi, c'est en arrière, là, c'est derrière l'arbre. Il faut regarder. On est en train de vivre les conséquences de ça, vraiment. Et regardez cette semaine...
Et de l'argent que le gouvernement Trudeau ne paie toujours pas pour le moment au gouvernement François Legault. En tout cas, si...
Oui, on aura l'occasion d'en reparler.
C'est justifié de le faire.
Gérald Filion a demandé au ministre des Finances,
Éric Girard. Le journaliste de Radio-Canada.
Exactement. Il lui a demandé, je comprends pas, avec l'immigration, vous devriez pas avoir plus de recettes. Et on devine qu'Éric Girard est dans l'équipe, disons, pro-immigration à la CAQ. Et il a été obligé de répondre non. Dans les premières années, c'est plus, comme vient de le dire Frédéric Lapointe, c'est plus de dépenses que de revenus. Donc là, je pense que c'est ça aussi qui est derrière ce budget-là. Il y a toute la question migratoire. On n'en a pas entendu beaucoup parler cette semaine. Paul Saint-Pierre Plamondon a eu des ennuis un peu personnels, donc il n'a pas vraiment pu insister là-dessus, mais je pense que c'est ça qui est derrière le budget.
On va en reparler, les ennuis, évidemment, liés à son existence comme homme politique, au fond. Frédéric Lapointe, est-ce que ses investissements en éducation... trouvez-vous, vous aussi, qu'on en parle peu, somme toute, et ça, c'est quand même une promesse tenue par François Legault, c'est-à-dire qu'il voulait faire d'éducation un poste prioritaire. On sent que c'est le cas dans une bonne mesure, en tout cas.
Oui, puis c'est l'effet politique de la grève. Hein, les grévistes étaient déçus. Plusieurs ont voté contre l'entente de principe parce qu'ils ne trouvaient pas dans l'entente de principe toutes les solutions à leurs revendications, parce qu'ils constatent les effets à la fois de certains désinvestissements ou les effets de la pandémie ou les effets migratoires. C'est tout à fait juste, mais c'est parce que tout ne se retrouve pas dans une convention collective. Et donc, le gouvernement a bien pris en compte la grogne des professeurs, la situation des enfants, la situation des parents, et a investi comme il se doit en éducation, tout comme Maurice Duplessis le faisait en situation de baby-boom dans les années 50 et par la suite les libéraux dans les années 60. C'est, encore une fois, ça, c'est prévisible comme la marée. La démographie, c'est lent, c'est prévisible, mais on ne peut pas y échapper. Donc, à la limite, n'importe quel gouvernement, la CAQ l'a bien fait, là, mais n'importe quel gouvernement aurait probablement fait la même chose et investi en conséquence en éducation. Et il y avait un quatrième facteur qui est hors de contrôle du gouvernement là, pour ces recettes.
Oui.
Et c'est le fléchissement des revenus des sociétés d'État. Parce qu'avec quel argent ont baissé les impôts là, ces 25 dernières années? On baissait ça avec les revenus de plus en plus importants, notamment d'Hydro-Québec. Les profits d'Hydro-Québec ont doublé pendant cette période-là. Là, c'est du 2 à 4 milliards. Là. On parle de gros argent. Mais là, les profits d'Hydro-Québec flanchent, hein, baissent. C'est une des sources du déficit. L'alcool, ça stagne.
Là, L'Auto-Québec, c'est plus payant. Sont vides, là, pour
voilà,
Hydro-Québec.
Exact. Ouais. Les réservoirs sont vides, mais les coûts d'Hydro-Québec sont à la hausse également, puis ils ont besoin d'investir. Enfin, donc, le budget, ça ressemble... C'est une bête quand même assez complexe parce qu'il y a énormément de sources de dépenses, énormément de sources de revenus. Mais quand on décompose les parties, ça devient un casse-tête qui est un peu un jeu d'enfant. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que le gouvernement ne voit pas venir les choses. Il y a des gens compétents qui s'en occupent. Et ce qui est dérangeant dans le budget, au-delà du montant qui, en rapport avec la taille de l'économie, c'est vrai, et peut-être modeste, et les agences de notation l'ont bien noté, ce qui est dérangeant avec le budget, c'est que le gouvernement n'a aucune espèce d'idée de ce qu'il fera.
C'est l'impression que ça donne. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que, parce que là, finalement, bon, somme toute, pour le moment, on est devant ce déficit. On n'est pas encore en austérité. On a l'impression que les décisions sont reportées à plus tard. Mais on nous dit qu'on va y arriver, hein, 2027.
Moi, je vous prédis qu'ils n'y arriveront pas.
Ben, c'était ma question.
Non, ils n'y arriveront pas. Les mêmes facteurs que je viens de vous identifier vont continuer à aller dans la même direction. L'effet de la hausse des taux d'intérêt va se maintenir. On est déjà en plein d'emploi. C'est pas vrai que le taux de chômage va baisser de 4,5 à 2 pour qu'il y ait plus de rentrées fiscales. Hein, c'est pas vrai, ça va pas arriver. La vague migratoire va pas cesser. Donc, on va continuer à faire face à des coûts de plus en plus importants. On va réclamer de l'argent à Ottawa parce que c'est probablement la seule soupape, mais on se met en situation de dépendance. Les sociétés d'État, ça va pas s'améliorer. Là, on augmente les taxes sur le tabac de 10 % deux reprises au cours de l'année, mais à un moment donné, là, on a beau vendre la cartouche de cigarette 100 000 $ les gens vont arrêter de fumer ou vont aller à Kanawagé, puis ça provoquera pas de rentrée fiscale au gouvernement. Donc, la réalité, c'est que le gouvernement n'a pas d'option, à part espérer que la situation s'améliore, c'est ce qui est dans le discours du budget, n'a pas vraiment d'option pour faire face au déficit structurel qu'il s'est lui-même magasiné.
Alors justement, là-dessus, Rémi Villemur, vous parliez de Paul Saint-Pierre Plamondon qui a talonné François Legault en lui disant « Montrez-nous comment vous allez augmenter les recettes. Hein? » Est-ce que ce genre de discours, on se demandait dans les semaines précédentes si le Parti québécois pourrait commencer à trouver les choses plus difficiles s'il se montrait davantage comme ce parti social-démocrate assez à gauche sur ces questions-là. Est-ce que ça peut être coûteux pour Paul Saint-Pierre Plamondon, je choisis mes mots ici, de dire des choses comme celle-là? Ou est-ce qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les recettes, au fond?
Non, parce que je vous rappelle que bon, la position historique du Parti québécois, c'est un parti qui propose d'avoir des impôts quand même relativement élevés, en tout cas plus élevés que ce que propose la CAQ. Et à l'époque des chèques, le Parti québécois était contre et la plupart des gens étaient contre aussi. Je veux dire, donc c'est pas une position qui est dangereuse, qui la place dans une situation périlleuse où elle pourrait perdre des points. Je parle bien de la position du PQ. Les gens sont derrière ce genre de position-là. Les gens ont trouvé ça bête, en fait, de baisser les taxes et les impôts. Juste pour conclure aussi sur cette question-là du budget, moi, à chaque fois qu'un gouvernement dépose un budget, je dois être un très mauvais... Je dois avoir un très mauvais esprit politique et je me flagelle inutilement ici, mais je trouve ça difficile offrir un budget. Puis je trouve qu'on voit le pire de la politique quand un gouvernement dépose un budget. Il y a de la mauvaise foi
dans
partout.
Les réactions,
oui. Ah, écoutez, regardez Québec solidaire.
Ben, c'est parce que c'est le festival des chiffres. Hein,
Québec solidaire qui essaye de critiquer d'un côté de la bouche le déficit et d'un autre côté de la bouche le fait qu'il n'y a pas assez d'argent en logement. Tu dis, ben là, donc il y aurait eu un plus gros déficit. Il y a des gens qui pendant la grève, disaient franchement, le gouvernement est cruel, devrait donner aux syndicats ce qu'ils veulent. Ils ont donné beaucoup d'argent et là, c'est le déficit est trop élevé. Ben, franchement, il faut vous décider, les amis. Là.
Oui, on est un peu dans la garderie.
C'est un peu bête, en fait.
Guillaume Rousseau, mes plus plates excuses, j'ai cru qu'on vous avait perdu. Vous êtes bien là?
Oui, tout à fait.
Bon, pardon, merci de votre patience. Je recommence au début. Vous, un déficit de 11 milliards et puis l'approche, Legault et Girard, qu'est-ce que tout ça vous dit?
Ben d'abord, la question du ratio au PIB, on en a parlé tantôt, mais moi, ce que je trouve encore plus important, c'est la question du fonds des générations et de la provision. Donc, finalement, le vrai déficit est à un peu plus de 7 milliards. Donc, ça, c'est quand même important de le dire. Faut pas non plus que ça banalise, parce que, moi, je le dis toujours, hein, des déficits, c'est quoi? C'est des coupures de services et des hausses de taxes différées dans le temps. Donc, c'est quand même pas banal. L'autre chose aussi qu'il faut pas perdre de vue, c'est que, bon, sur la question des baisses d'impôts, moi, je trouve ça un peu particulier parce que l'automne dernier, à peu près tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait augmenter les salaires des infirmières, des profs. On parle de gens qui, dans le haut de l'échelle, sont à 100 000 et là, vont passer à 110 000, là, pour le dire avec des chiffrons. Donc, ce serait légitime de vouloir faire passer les infirmières, les profs de 100 000 à 110 000, mais les cadres des entreprises privées qui bénéficient, les fameux 100 000 et plus, là, présentés comme des super riches par Gabriel Nadeau-Dubois, eux, ce serait illégitime de faire un petit effort. Non, moi, je trouve qu'à partir du moment où on fait un effort pour le secteur public, ben, c'est aussi normal qu'on fasse un effort plus largement pour le secteur privé, puis là, bien, puisque c'est pas l'État qui contrôle les salaires dans le privé, c'est via la voie fiscale que ça a un effet. Puis, ça a un effet aussi sur les salariés du secteur public, en plus, qu'on voulait tant aider là, lorsque les partis d'opposition, entre autres, étaient sur les piquets de grève là, à l'automne. Donc, disons que quand M. Nadeau-Dubois est d'une part sur les piquets de grève pour que les salariés du secteur public passent de 100 000 à 110 000, puis qu'après ça, il chiale contre les baisses d'impôts visant les gens de 100 000, c'est quand même particulier. Mais par contre, mon reproche au gouvernement est le suivant. c'est que la baisse d'impôt, elle m'apparaît pertinente dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Parce que faut pas rappeler qu'on parle d'un impôt qui décourage le travail. C'est-à-dire que si vous prenez des heures supplémentaires, vous prenez un deuxième emploi, la politique fiscale de l'État québécois vous décourage à faire ça, alors que c'est exactement ce qu'on a besoin en ce moment au niveau de l'économie, des gens qui font plus d'heures de travail. Alors, je pense que cette baisse d'impôts-là aurait dû être modulée. Il y avait une idée qui circulait, là, ça a été mis de l'avant par certains instituts de recherche ou quoi, de dire, ben, quand on a un deuxième emploi, là, à part de son emploi à temps plein, un deuxième emploi, ben, on devrait être calculé au niveau, comme on devrait repartir à zéro en termes de taux puis de palier d'imposition et non pas voir ces dollars-là comme étant s'ajoutant à ceux de l'emploi à temps plein, parce que sinon, ça devient extrêmement moins bénéfique d'avoir un deuxième emploi. Donc je trouve que la baisse d'impôt, elle était justifiée, mais elle aurait dû être mieux ciblée pour encourager le travail.
Et Guillaume Rousseau, je reste avec vous. Une fois qu'on a traité de cette question-là, la baisse des dépenses, là, est-ce qu'on peut imaginer la révision des programmes? Voilà, on fait le ménage, on essaie de couper partout où on peut. Est-ce qu'on peut imaginer que faire un exercice comme celui-là et obtenir des résultats qui feraient une différence vraiment dans le portrait pour les années à venir? Là, on a annoncé la fin de la subvention pour la fin progressive de la subvention pour les voitures électriques. Est-ce que c'est avec des... Ça coûtait cher, d'ailleurs, ça. Mais est-ce qu'on peut suffisamment trouver de postes de dépenses comme celui-là pour changer les choses véritablement?
Ben, habituellement, ce genre d'exercice rapporte des centaines de millions et non pas des milliards. Donc, je pense pas que ça sera différent cette fois-ci. Ça vaut la peine de le faire. Il y a des inefficacités bureaucratiques. Il y a des programmes qui existent depuis longtemps qui répondent peut-être pas autant aux besoins. Bon, les voitures électriques, c'est un bon exemple. Peut-être que le gouvernement coupe un petit peu trop tôt, mais tout le monde s'entend pour dire que dans 10-20 ans, ça sera plus pertinent d'avoir autant de subventions. Donc, c'est un bon exemple. On peut le multiplier et aller chercher des centaines de millions. On peut penser aussi de toutes sortes de tendances dans la bureaucratie, des tendances idéologiques, par exemple des postes de directeur à l'EDI et tout qui se multiplient dans nos universités ou ailleurs. Je pense qu'on pourrait couper ça sans qu'il y ait une diminution de service. Alors oui, je pense que c'est un exercice pertinent, mais non, ça ne rapportera pas des milliards. Alors il y aura des solutions à trouver ailleurs également.
Vous avez fait réagir Frédéric Lapointe. On vous écoute, Frédéric Lapointe.
En 2012, je ne militais pas pour augmenter les frais de scolarité et augmenter les revenus des universités parce que je considérais qu'elles avaient amplement de quoi faire leur mission. Et depuis, je constate qu'on ne s'en va pas, pour le dire ainsi, dans la direction d'une plus grande efficacité. Les salaires sont plus élevés dans les universités qu'au gouvernement du Québec et j'oserais dire que le nombre d'individus pour effectuer les mêmes tâches a augmenté également. Je le dis de façon diplomatique, là, mais on manque pas d'argent dans les universités, c'est clair. Par contre, ce qui pourrait...
Vous sortez du lot en disant...
Je travaille dans une université. Là. Je pourrais en témoigner.
Ben, c'est vrai, puis vous arrivez ici, il y a de l'argent qui sort de vos poches qui tombe par terre.
Vous avez
plein d'argent.
Tout va bien. Ouais. Cela dit, le problème des universités, pour faire court, là, c'est qu'elles sont extrêmement dépendantes de la clientèle qui nous vient de l'étranger et ça contraint la politique migratoire du gouvernement. Le gouvernement n'est pas capable de limiter l'immigration temporaire, notamment le volume des étudiants, parce que les universités en sont devenues dépendantes.
Oui. Rémi Villemur, ça vous fait réagir, vous aussi?
Oui, non, mais c'est vrai. Les universités, ce sont des entreprises qui ont besoin des étudiants étrangers. C'est tout simplement ça. Là. Des gens qui payent 20 000 $ par session, là, c'est de l'or pour eux. Mais je voulais juste revenir sur l'idée de la mauvaise foi, de cette espèce de festival de la mauvaise foi à chaque fois qu'un gouvernement dépose un budget. J'ai quand même entendu des gens cette semaine se dire, et sans le dire vraiment très clairement, mais c'est ce qu'on lisait entre les lignes, ils étaient nostalgiques des années couillard, là, et du budget de Carlos Letao, de l'austérité, parce que ils se disaient, c'est peut-être ça dont on a besoin. Je rappelle quand même qu'à l'époque, il avait joué sa carrière politique là-dessus. Là,
oui.
Et Carlos Letao, qui était resté très, très, très discret cette semaine, devait être dans son salon et se dire, ouais, je pense que je renais d'une certaine façon. Là.
Oui, c'est-à-dire que lui, ça fait longtemps qu'il se dit ça.
Tout ça pour ça, parce que c'est ça, finalement, on a fait un sacrifice. Les libéraux, si on peut leur donner une chose, les libéraux de cette époque-là, c'est qu'ils se sont sacrifiés pour le bien-être des finances publiques, se sont mis à dos toute la fonction publique, particulièrement des gens dans le secteur de la santé.
Le commentariat, beaucoup aussi.
Exactement. Mais c'était pour faire en sorte que les années qui viennent soient plus intéressantes. Et là, on revient à un niveau où on se dit, est-ce que c'est ça dont on aura besoin?
Ben, après avoir dépensé, vidé la caisse peu, c'est l'impression que ça donne. Et on va terminer là-dessus pour ce sujet. Guillaume Rousseau, avec vous, avec le recul, Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est pas juste avec le recul. Déjà, dans les premières années du gouvernement caquiste, je me disais, ah là là, voilà des gens très chanceux d'être assis sur autant d'argent. Est-ce qu'on prend vraiment toutes les précautions pour que ça dure? Avez-vous l'impression qu'on s'est un peu payé du luxe avec les surplus amassés à très fort prix politique par les libéraux, Guillaume Rousseau?
Ben, je pense qu'effectivement, la CAQ, dont certains s'attendaient à ce que ce soit la tendance à des kisses qui l'emportent,
ben oui,
plus
c'est
de centre-droit, dès le premier budget 2019, c'était clair, ça ressemblait à un budget péquiste du début des années 2000.
Alors, donc, les gens des radios de Québec dans... là, qui disent que c'est le PQ 2.0, social-démocrate.
Il y a du vrai là-dedans. C'est une espèce de parti un peu social-démocrate à l'image de son premier ministre. Alors, voilà, je pense que il y a de ça aussi. Bon, maintenant, c'est une coalition, fait qu'il y a quand même encore des anciennes à des kisses et tout. Là, il y aura peut-être des ajustements dans ce sens-là, mais ça, je pense que ceci explique cela. Mais en même temps, même si les 11 milliards ne sont pas dus à la pandémie, il y a quand même eu la pandémie entre-temps, qu'il ne faudrait pas oublier.
Rémi Villemur, une nouvelle nous a touché, bouleversé cette semaine. C'est, pourtant, on sait que les chefs politiques, même les personnalités publiques, les journalistes, les gens de la société civile qui participent au débat sont l'objet parfois de menaces, de propos durs, violents, orduriers. Et des fois même, ça va plus loin, là, des menaces très concrètes. C'est le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a essuyé ce genre de choses cette semaine. Alors, c'est un individu d'une quarantaine d'années qui a été arrêté pour avoir fait de sérieuses menaces de mort au chef du Parti québécois et, si je comprends bien, à sa famille. Et voilà, parce que cet homme s'oppose aux politiques sur l'immigration de Paul Saint-Pierre Plamondon. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que ce genre de choses explique la difficulté parfois qu'ont les politiciens d'aborder des sujets plus délicats, en ce cas-ci celui de l'immigration?
Ben vraiment, c'est une intimidation qui fonctionne parfois, et j'espère qu'elle ne fonctionnera pas dans le cas du Parti québécois. Le cas très précis de Paul Saint-Pierre Plamondon cette semaine, je viens de le dire, est particulier, je trouve, parce que généralement, les élus, bon, durant la COVID, il y a beaucoup d'élus qui ont été la cible de menaces, mais si je me rappelle bien, ça visait souvent l'individu, c'était souvent proféré par des gens qui étaient dans une situation socio-économique un peu difficile, des gens qui étaient frustrés, des gens qui étaient isolés. Je dis pas que c'était moins sérieux, mais là, cette fois-ci, ça vise la famille. On parle bien d'exterminer la famille. Et c'est pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon a annulé sa présence au Conseil général du Bloc aujourd'hui. Parce que là, lui, il réalise finalement que ce n'est pas juste lui qui est la cible. T'sais, vous savez, recevoir des menaces, moi j'en ai déjà reçu. C'est moi, OK, je peux avoir peur ou pas, ça dépend de mon tempérament. Je ne le révélerai pas pour ne pas encourager les gens à menacer, mais un petit indice, ça me fait pas bien peur. Si c'est la famille, c'est autre chose. Parce que là, en plus, il y a de jeunes enfants. Et là où c'est encore particulier d'une autre façon aussi, c'est que c'est politique. Hein? Parce qu'on est frustré chez nous par, je sais pas, le confinement. Ben, vous savez, vous vous rappelez, c'était pas juste François Legault qui recevait des menaces, c'était tous les chefs politiques. Il y avait des élus de Québec solidaire qui recevaient des menaces.
De toutes sortes de niveaux, pas juste des chefs. Là.
Mais ouais. Là, ce qui motive cette personne-là, et j'imagine qu'on va le psychiatriser puis qu'on va rabaisser ça à son statut.
C'est un fou,
ouais,
c'est pas grave.
Ouais, c'est ça, on connaît la cassette. Ce qui est particulier cette fois-ci, c'est que c'est quelqu'un qui est contre les politiques en matière d'identité du Parti québécois. Et en Europe, en France, en Angleterre, dans des pays où il y a des partis de droite ou des partis qui s'opposent aux politiques migratoires...
Qui sont parfois de gauche ou presque.
Ou même, parce que de toute façon, gauche-droite, vous avez raison, ça ne veut plus rien dire. Il y a des élus qui sont sous la protection de la police, là, qui sont suivis constamment par des gardes du corps, qui déplacent leur famille, qui font en sorte que leurs enfants changent d'école, changent de nom de famille. Et moi, je suis obligé de regarder ce qui se passe en Europe et de me dire, ben, écoute, on a au moins un indice cette semaine que cette vague-là s'en vient peut-être. Donc, je pense que ce cas-là n'est pas un cas de faits divers. C'est un vrai enjeu de société.
Qui va nous annoncer quelque chose.
Ah, mais je ne veux pas être prophète de malheur, mais possiblement, oui.
Je ne veux pas dire annoncer des violences nécessairement, mais annoncer que ce genre de manifestation va se produire de plus en plus souvent. Là, on ne sait pas qui est cet homme. D'où vient-il? Est-il politisé? Est-ce que c'est un Canadien français? Est-il lui-même issu de l'immigration?
Est-il un homme? Non, je rigole.
Oui,
on parle de violence, quoi, on pense à des hommes. Jours.
Hein? Oui, mais avec raison, d'ailleurs, franchement, ouais. Disons-le.
Je rappelle quand même le cas de cette Française qui avait essayé de tuer Donald Trump là, avec de la petite poudre dans une enveloppe.
Ah,
là, vous vous rappelez d'elle? C'était une femme. Elles sont capables de violence.
Ça arrive, oui. Ouais. Mais bon, on ne sait pas tout. Hein, peut-être que c'était son... Oui, peut-être qu'elle s'identifiait comme homme aussi. Bref, c'est son l'humour, parce que c'est pas drôle comme sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe?
Ouais, on essaie de rendre ça léger. Écoutez, la violence politique ne nous est pas étrangère. Je vais prendre deux cas. Alexandre Bissonnette, à Québec. Un attentat islamophobe.
Pour vous, c'est politique?
Ouais, ben regardez, là. C'est pas un attentat islamophobe qui sort, qui tombe de la planète Mars, là. Hein, c'est à la suite d'une dizaine d'années ou une quinzaine d'années de discussions politiques parfois sereines, parfois désagréables, à la suite des attentats du 11 septembre 2001.
Des accommodements raisonnables
des
jusqu'à la Charte des valeurs.
Des guerres en Irak, guerres en Afghanistan. Bref, il y avait tout un discours ambiant qui pouvait exciter, appelons ça, les boulons les plus faibles de notre machine, hein, de notre moteur.
Pas juste le discours ambiant, d'ailleurs, les gestes, le terrorisme aussi.
Oui, exact.
Expliquer qu'un jeune déséquilibré, ou en tout cas faible, comme vous dites.
Exact. Bon, je prends cet exemple-là. Prenons-en un deuxième. Richard Henry Bain, hein, qui s'en prend aux péquistes, qui voulait assassiner Madame Pauline Marois en 2012.
Et qui assassine
au passage un technicien
dont
le nom m'échappe. Oui. Mais ce n'est pas non plus un acte qui arrive par hasard. Dans les médias anglophones, les discours haineux en l'endroit des séparatistes ont cours depuis des dizaines d'années. Et à un moment donné, le boulon le plus faible de la machine va sauter. Bon, deux exemples. J'arrive à ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans certains milieux? Quel est le discours haineux qui se tient? Le discours haineux qui se tient est à l'endroit de la majorité québécoise. On l'observe dans certaines écoles secondaires de plus en plus. Il y a des témoignages à cet effet. Il se tient dans certaines communautés et il se tient en particulier pour délégitimer le pouvoir que pourrait exercer la majorité historique, pour reprendre les mots de Mathieu Bock-Côté, sur ses frontières, sur les flux migratoires. Et là, ben, qui représente ça dans le discours politique en ce moment? C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que la CAQ est trop prise avec des problèmes de gestion là, puis d'intendance.
Donc, ben oui, aussi parce que c'est celui qui, à certains égards, va le plus loin dans ce domaine, évidemment.
Oui, exact. Ouais. Donc, si vous êtes excité par ce discours haineux, ambiant, qui délégitimise la nation québécoise ou même qui nie la nation québécoise,
une parenthèse,
à qui vous allez vous en prendre?
C'est Denis Blanchette qui avait été assassiné par Richard Henry Bain au Métropolis.
Oui, c'est ça. Puis il y avait un autre qui avait été blessé gravement.
Alors,
et donc, si vous êtes le boulon le plus faible, hein, forcément, c'est le boulon le plus faible qui va sauter. On va dire que c'est des fous, là, mais il y en a toujours un plus fou qu'un autre qui va être excité par le discours ambiant, mais il ne faut pas ne pas voir quelle est la cause? Et la cause, c'est la récurrence d'un discours haineux, négationniste, à l'endroit de, pour prendre des expressions d'école secondaire, des Keb. Et là, on commence à voir poindre des débuts de commencement de conséquences. J'espère que la police fait bien son travail. J'espère qu'on aura une discussion publique sur ce cas, mais surtout sur les causes, pour qu'on n'ait pas à vivre, je l'espère, un épisode domestique du type d'Alexandre Bissonnette à Québec ou de Richard Henry Bain, et encore moins avec le pourrissement d'une situation où la violence politique devient une option au Québec, et en particulier une option destinée à délégitimer la nation québécoise ou à la nier.
Guillaume Rousseau, en même temps, avec le discours que tient Frédéric Lapointe, d'une certaine façon, on se lance en terrain glissant, parce que là, on peut dire, il y a des discours à proscrire. C'est parce que des gens ont dit des choses que d'autres gens franchissent le pas vers la violence ou la menace de la violence. Comment abordez-vous tout ça, vous?
Ben moi, je suis assez à l'aise avec le principe qui dit qu'en matière de liberté d'expression, on a le droit de tout dire, à part certaines exceptions. Et dans les exceptions, il y a la diffamation, puis il y a l'appel à la violence. Mais le simple fait de tenir un discours critique, même si ça peut alimenter des gens avec des problèmes mentaux, puis les amener indirectement, possiblement, à commettre des actes, bon, tout ça m'apparaît pas un motif suffisant pour vouloir limiter la liberté d'expression.
Alors vous mettez une frontière très nette, là.
Ouais, effectivement. Donc, je pense que la liberté expression, ça s'arrête là où commence l'appel à la violence, mais on peut pas, voilà, et je pense que si on commençait à ajouter d'autres exceptions à la liberté d'expression, ce serait dangereux. Et la solution, elle est, par contre, je partage beaucoup des points là, soulevés par Frédéric, donc c'est sûr que c'est un vrai problème, tout ce qui soulève, puis je vous rappelle qu'à l'heure où on se parle, il y a encore sur le site de la presse un article qui s'intitule « Richard Henry Bain, un amoureux du Canada à l'âme troublée ».
Donc, ah bon?
Vous allez le googler, c'est encore là. Donc, il y a eu une banalisation de cet attentat terroriste-là, ça m'apparaît évident, et 10 ans plus tard, quand il y a eu le procès civil et tout, là, on a réalisé à quel point il y avait eu plein de victimes dans l'équipe de techniciens et tout, qui ont été traumatisés et tout, puis on a commencé un petit peu sur le tard à réaliser à quel point c'était grave, un peu comme la poli aussi, on a réalisé plus tard à quel point c'était grave.
Et ben oui, l'onde de choc, hein, ben oui.
Ouais, dans le cas de Richard Henry Bain, je pense qu'il y en a encore du travail à faire comme société pour réaliser à quel point c'est grave. En plus, c'est la deuxième contre le PQ. Il y a eu Caporal Lortie avant. Donc, des menaces contre des élus en démocratie, c'est extrêmement grave. Ça doit être pris extrêmement au sérieux. Et particulièrement quand ça vise le PQ, là, je veux pas faire de partisanerie, mais historiquement, il y a eu deux attentats graves contre le Parti québécois. Alors, j'espère que la police surveille ça de très près. Mais au Québec, la sécurité publique, c'est rarement une priorité. On parlait du budget tantôt. Personne aurait l'idée folle d'aller voir dans la colonne de la sécurité publique, voir s'il y a eu des coupures ou des augmentations.
Non.
Ça ne fait pas partie du débat, contrairement à la France, contrairement à plein de pays. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça va devenir un problème et qu'il faudrait que la sécurité publique soit une priorité. Qu'on parle des gangs de rue avec les armes à feu et tout, les menaces envers les élus, ça fait aussi partie de cette problématique trop peu étudiée et trop peu priorisée, je pense, au Québec.
Vous soulevez une question, Guillaume Rousseau, je reste avec vous un instant, à la fois fascinante et fort intéressante. Se pourrait-il que le Parti québécois soit dans une forme de position de vulnérabilité parce qu'il évolue dans un contexte provincial, hein? Le Québec, c'est un peu comme une très grosse municipalité qui ne s'occupe pas de choses régaliennes et de choses comme la sécurité tant que ça, alors que lui joue un peu sur un terrain beaucoup plus, risqué de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il veut que le Québec devienne un pays, il remet en question le système, la structure, et en même temps, il touche à un sujet qui est très, très... qui va jusque dans l'affect pour bien des gens, y compris ceux, évidemment, qui sont opposés à l'indépendance. Alors, est-ce que le PQ est particulièrement, et son chef sont particulièrement vulnérables de ce point de vue-là?
Oui, je pense que oui. Puis historiquement, comme je dis, il y a deux exemples. On peut difficilement trouver deux groupes aussi précis que sociologiquement que les péquistes qui auraient fait l'objet de deux attentats terroristes dans l'histoire récente du Québec. Là, c'est quand même assez particulier. Donc, je pense que vous avez raison qu'il y a peut-être un contexte particulier au Parti québécois. En même temps, faut pas oublier que tous les nationalistes, y compris du côté de la CAQ, on peut être visé par des accusations de nazisme. Mm-hmm. Par exemple, là, au moment de la loi 21. Et quand je disais tantôt que, à mon avis, la limite à la liberté d'expression, c'est l'incitation directe à la violence, tout ce qui est en deçà de ça doit peut-être, dans une certaine mesure, être toléré, ce qui n'empêche pas que c'est peut-être aussi à surveiller, mais dans le cas de l'accusation de nazisme, là, je pense que donc faut voir, ça peut être la diffamation
vous,
dans certains cas. Là.
Ouais, c'est une sorte d'incitation à la violence.
Ça. C'est-à-dire que ça crée le contexte dont parlait Frédéric. Et là, je me rapproche peut-être un petit peu de sa position, même si juridiquement, c'est pas toujours possible de pénaliser ça. Je pense que, comme société, il faut, sans que ça prenne nécessairement des voies juridiques ou judiciaires, il faut, je pense, se le dire que ce genre de propos-là, de nazifier l'adversaire, c'est dangereux parce que c'est là, effectivement, que ça ouvre la porte à ce que des coucous disent, ben, si l'adversaire est un nazi, ben, il mérite que je me prenne à lui physiquement. Il faut comprendre aussi les portées de ses paroles. Puis effectivement, si une personne est un nazi, ben là, ça vaut peut-être la peine de s'en prendre à lui physiquement puis d'exercer de la violence à l'encontre de cette personne-là. Alors que, bon, évidemment, les personnes est un nazi au Québec, donc c'est nettement exagéré lorsque ces accusations sont proférées.
Ouais, ou en tout cas, la menace de la violence. Rémi Villemur, trouvez-vous, vous, que le Québec est un peu léger sur ces questions-là? En même temps, on pourrait y voir une forme de qualité, c'est-à-dire qu'on évite de dramatiser ces événements-là et de leur donner une signification politique. Hein. On aime mieux que M. Bain ou M. Bissonnette ou Lortie ou Marc Lépine soient des fous que se dire qu'ils ont une démarche politique et par conséquent qu'ils pèsent dans le débat politique. C'est peut-être pas non plus un mauvais réflexe parce qu'il y a des pays où on prend très au sérieux la question de la sécurité, puis il y a de la violence quand même.
Malheureusement, c'est un peu plus complexe que ça.
Ben, je vous écoute.
Je rappelle que personne n'a hésité à la suite de l'attentat de la mosquée à affirmer qu'il y avait un courant d'islamophobie au Québec, alors que cet incident-là, qui est en fait plus qu'un incident, qui est un drame, je vais quand même le préciser, n'impliquait quand même qu'une seule personne.
Abominable.
Oui, oui, absolument. Mais qu'une seule personne, c'est-à-dire un garçon. D'ailleurs, son interrogatoire est disponible en ligne, puis on voit à quel point c'est quelqu'un qui est faible d'esprit, fragile, fou. Mais c'est pas le Québec, ça. Hein? Et pourtant, depuis l'attentat de la mosquée, on ne cesse de dire que l'islamophobie est un fléau au Québec. Mais Richard Henry Bain.
Mais bien sûr, vous avez les représentantantes, là, Mme Bokramanaï, par exemple, de la ville de Montréal, qui c'était avant d'être nommée, elle s'est exprimée.
Régis Labeaume, qui, à mon avis, a même perdu la tête depuis cet incident, depuis cet accident-là. Voyons, oui, ce drame-là,
cette affaire-là,
qui ne cesse de dire qu'il y a un courant d'islamophobie au Québec. Bon, il faut faire la part des choses.
Le Québec est devenu la référence pour les violents d'extrême droite
Et on cite cet événement-là, qui est un triste événement, mais qui est un événement singulier et qui n'implique qu'une seule personne. Ce n'est pas un commando de personnes qui s'en est pris.
Mais alors, on ne peut pas dire ça dans son cas et ensuite dire Bain, lui.
C'est ça le problème. Puis d'ailleurs, j'aimerais ajouter, parce qu'on l'a sans doute oublié, mais non seulement il y a un article de la presse dont le titre vient d'être prononcé par Maître Guillaume Rousseau, mais il y a aussi cette entrevue à CJAD qui avait été accordé à Richard Henry Bain, qui était à l'infirmerie du centre de détention de Rivière-des-Prairies, qui avait appelé avec un téléphone, lequel on ne sait pas, CJAD, qui avait dit « Monsieur Bain, on va vous mettre en onde », et une entrevue comme ça, presque loquace, là, où on lui donne la parole, on ne l'interrompt pas trop, et ensuite, bon, le conseil de presse qui n'avait pas blâmé CJAD, mais encore à ce jour, il y a très peu de personnes qui admettent que Richard Henry Bain, ou plutôt qui reconnaissent, est un terroriste. C'est un terroriste. Il avait des motivations politiques. Je rappelle que quand il a été arrêté, on a la vidéo.
Il était plus solide dans son truc que Bissonnette dans le sien. C'est terrible de poser cette question.
C'est pas ce que je dis. Sauf que c'est pas ce que je dis. D'ailleurs, je dis pas qu'il y a un courant non plus de terrorisme anti-souverainiste au Québec. Sauf que Bissonnette est un terroriste. Personne ne le nie. Mais Richard Henry Bain, plein de gens le nient, c'est tout ce que je dis.
Ah oui, d'accord.
Ça reste deux cas très singuliers.
Donc, vous parlez d'un deux poids, deux mesures.
Ben, tout à fait. Regardez, Bissonnette avait dit durant son interrogatoire qu'il avait posé ce geste-là parce qu'il avait peur que sa famille se fasse tuer par des musulmans. Il avait dit ça. Donc là, on s'était dit, bon, ben voilà, c'est un terroriste qui s'en prend à des musulmans. Richard Henry Bain, quand il a été arrêté, il a dit « Les Anglais sont réveillés. » Les Anglais sont réveillés. Donc, les Anglais se réveillent. Piètre français, que ça ne nous surprend pas. Mais les Anglais se réveillent. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Moi, j'ai juste peur que ce genre de menaces-là et d'intimidation-là, je reviens au cas de Paul Saint-Pierre-Plamondon, affecte les péquistes et les incite à reculer un peu.
À se censurer.
Je ne pense pas que c'est ce qu'ils vont faire, parce que ce qui est payant pour le PQ depuis l'élection de Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est le courage dont il fait preuve constamment. Et les hommes courageux se tiennent debout, c'est ce qu'il va continuer de faire.
Mais quand vous êtes un père de jeune famille, vous avez des priorités aussi.
Oui.
Vraiment, il y en a une qui est ultime, c'est celle de protéger vos enfants.
C'est très délicat.
On verra bien, mais Frédéric Lapointe, en terminant sur ce sujet, on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du deux poids, deux mesures?
Il existe et il faut être extrêmement vigilant.
Donc, vous pensez que quand ça touche la majorité au Québec, on n'est plus... On balaie ça sous le tapis.
On balaie ça sur le tapis trop rapidement. Nous, au Mouvement national des Québécois, on a une réflexion en cours, on a des actions en préparation. On est content que Jean-François Lisée ait un peu dévoilé le poteau rose, que ça aurait provoqué un débat.
L'horloge Québec dans les écoles.
Le sablier s'écoule. Hein? On a un an, deux ans pour recadrer la discussion publique pour qu'elle soit sereine, parce que dans trois ans, avec l'élection, c'est ce qui est probable, d'un gouvernement du Parti québécois, on s'en va dans un débat, dans une consultation populaire sur la séparation du Québec. Alors, si vous pensez que ça va être agréable d'entrer dans ce débat-là alors que des menaces de mort ou des gestes déplorables commencent à se poser, ce sera pas drôle. Donc, on a vraiment 12 à 24 mois pour recadrer les choses, imposer des normes, pas par la voie des tribunaux, mais imposer des normes de discussion publique de telle sorte qu'il n'y ait pas excitation du boulon le plus lousse de notre machine sociale.
Guillaume Rousseau, on parle souvent de ça au Québec et au Canada, de la sécurité de nos politiques, de nos femmes et nos hommes politiques. Est-ce qu'elle est déficiente, selon vous? Je me souviens de cette nouvelle, la ministre Freeland ou je ne sais plus quel membre du cabinet Trudeau qui faisait ses courses tranquillement au supermarché ou qui était apostrophé dans un ascenseur à peu près seul par je ne sais qui. Est-ce qu'on échappe un peu le ballon là-dessus? Est-ce qu'on est un peu, justement, comme je le disais tout à l'heure, comme des espèces de clubs de campagne de grosses municipalités, même à Ottawa, j'ai envie de dire?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des resserrements. T'sais, par exemple, suite à l'attentat du caporal Lortie à l'Assemblée nationale, la sécurité, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Donc, je pense qu'on apprend en partie. Je pense que la sécurité lors des soirs de grands rendez-vous électoraux, c'est mieux assuré que ce l'était en septembre 2012 au Métropolis, parce que ça avait été une catastrophe. Là. J'étais dans l'organisation et je peux vous dire que la sécurité était vraiment insuffisante. Donc, je pense que on apprend, mais on apprend peut-être de manière un petit peu trop sectorielle. Donc, on apprend une leçon, mais vraiment juste dans un contexte exact. Si ça se reproduit, on va prendre des mesures. Mais c'est pas une réflexion plus large. Et je pense que c'est plus largement qu'on manque de ressources, de réflexion sur les questions de sécurité. Et je voudrais pas que ce soit une réflexion seulement sur les élus. Moi, j'ai toujours cette crainte quand les élus commencent à dire qu'il y a de l'intimidation ou quoi. Bon, on le voit dans le monde municipal, entre autres, d'avoir une réflexion autour des élus quand finalement, ces problématiques-là, ça touche pas seulement les élus, peut-être particulièrement les élus, mais je veux dire, on pourrait donner plein d'exemples, là. Je veux pas me mettre en scène, mais tu sais, comme avocat dans le procès de la loi 21, il y a eu des incidents semblables pour moi-même, pour des témoins. Donc, je pense que c'est plus large que seulement nos élus et il faut pas, justement, garder ça seulement autour des élus parce que
ça touche tous les acteurs du débat politique large.
Beaucoup plus largement. On a un sous-financement de la sécurité publique au Québec. Puis l'autre danger, c'est que si c'est les élus qui discutent entre eux puis qui se votent des budgets pour de la sécurité, mais juste pour eux autres, monsieur, madame, tout le monde va regarder ça puis il va dire, ben là, c'est des élus qui parlent de leur bobo, qui se grattent le nombril. Alors, moi, je suis pour qu'il y ait une discussion beaucoup plus large sur les questions de sécurité publique, y compris des élus, mais plus largement. Et je pense que comme société, là, faut considérer la possibilité d'en faire davantage une priorité. Là, notamment au niveau budgétaire.
Intéressant. Rémi Villemur, un autre sujet cette semaine incontournable, même si c'est une sorte de non-lieu en même temps, très prévisible, diront plusieurs, cette fin de non-recevoir habituelle, j'ai envie de dire, de Justin Trudeau, servi à François Legault, qui avait pris ses pénates pour aller, certains diraient, quémander à Ottawa, les pouvoirs en immigration. Hein? Je ne sais pas si c'est exactement ce que monsieur... Oui, même monsieur Legault a annoncé que c'est ce qu'il demanderait à Justin Trudeau. Justin Trudeau a répondu, notamment dans une entrevue... il s'est expliqué davantage dans une entrevue à Radio-Canada hier, mais en disant... nous allons continuer de travailler. Son discours habituel, mais il n'y avait rien là-dedans, sauf un nom. Hein? On ne donnera pas davantage de pouvoir au Québec, il faut être en mode solution, machin. Voilà, je viens de résumer l'ensemble de son discours. Qu'a pensé François Legault?
C'est une question. Écoutez, il y a des gens qui disent qu'il est tombé dans le piège du Parti québécois.
Parce que Saint-Pierre-Plamondon l'avait mis au défi.
Quelques semaines, voire quelques mois, Paul Saint-Pierre-Plamondon ne cessait de lui rappeler sa promesse à la dernière campagne électorale de récupérer les pleins pouvoirs en immigration. Moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, en dehors de pourquoi s'est-il rendu là, qu'on était dans du théâtre absurde. Là, parce que vous aviez déjà, d'une part, Justin Trudeau qui n'a fait mais aucune concession. Réalisez-vous, là, il n'a pas dit... à part de dire
non,
nous reconnaissons
un chèque de 5 $,
c'est-à-dire qu'il a dit ce qu'il avait déjà dit, nous reconnaissons que le Québec a fait plus que sa part, mais c'est tout là, c'est absolument tout, et François Legault est arrivé là presque comme dans un esprit d'acte de présence, c'est-à-dire il est rentré, il s'est assis, il s'est relevé, il a fait une conférence de presse et il est retourné à Québec. C'est ça qui s'est
après
passé.
Après avoir dit ben monsieur le Trudeau s'est montré ouvert.
Oui, puis là on a proposé la date du 30 juin donc scoop, il ne se passera rien le 30 juin.
Non, en effet.
On peut même éviter de se rendre jusque-là. Vous pouvez fermer les rideaux. C'est ça qui va se passer. Là, on est dans une situation qui est plus grave qu'on le pense pour le Québec. Ça veut dire que Justin Trudeau a presque abandonné le Québec, là, d'une certaine façon. En vue de la prochaine élection, c'est comme s'il disait, regardez, je n'ai plus du tout à prendre au sérieux les demandes de la CAQ. Est-ce que c'est parce qu'au Parti libéral, on a l'impression qu'on a quand même une majorité de la population? Il faudrait qu'il regarde les sondages, là, parce qu'à ce moment-là, il serait déçu. Dans tous les cas, c'est comme s'il se disait, j'ai plus intérêt à défendre la manière dure, la posture libérale classique, celle d'ailleurs que m'a demandé mon père de tenir au-delà de son parcours sur Terre, parce que c'est plus payant à l'extérieur du Québec, dans les autres provinces, cette espèce de posture de la part d'un premier ministre québécois, en tout cas, en ce qui en reste.
Surtout libéral, c'est-à-dire tenir la ligne dure envers le Québec.
Et ça, c'est des mauvaises... Dans tous les cas, c'est une mauvaise nouvelle pour le Québec. Et il va falloir commencer à se poser une question. Là, je m'en vais peut-être un peu trop loin. Vous me ramènerez sur place. Je me laisserai faire. On aura vraiment gaspillé, quand même, je parle des souverainistes, cette occasion de faire des gains et de faire avancer le projet souverainiste sous le règne de Justin Trudeau. On n'aura pas ça avec Pierre Poilievre. Hein. Justin Trudeau a méprisé le Québec comme presque aucun premier ministre ne l'a fait, et les souverainistes ont fait très peu de gains. Et là, on arrive à la fin du règne de Justin Trudeau. On s'en va vers un gouvernement le gouvernement conservateur, qui a déjà annoncé ses couleurs, qui dit qu'il sera moins centralisateur, qui va donner plus de marge de manœuvre au Québec. Normalement, la souveraineté, elle aurait dû se faire, ou en tout cas, les gains auraient dû se faire sous le règne de Trudeau, et on n'a absolument rien fait. Et ça, c'est lamentable. Et les souverainistes doivent faire un exercice de conscience.
Parce... Ou les nationalistes, diriez-vous?
Ouais, les nationalistes et les souverainistes. Partie de ceux qui mettent ça. Un nationaliste, pour moi, est un souverainiste.
Vous ne chicane pas d'aller aussi loin que vous voulez, Rémi Villemur. Je précise, par contre, que Pierre Poilievre, prenons par exemple la question de la loi 21, n'exclut pas du tout d'aller en Cour suprême lui aussi pour contester. Alors, bon, il faudra voir à quel point.
Sur la question des transferts en santé, sur la question des champs de compétences, il a déjà annoncé qu'il serait moins obstiné à la manière du NPD.
Comme le sont les conservateurs.
C'est pour cette raison que François Legault avait très peu subtilement conseillé aux Québécois de voter conservateur aux dernières élections aussi. C'est plus simple pour un gouvernement du Québec de faire affaire avec un gouvernement conservateur. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les souverainistes.
Alors, Guillaume Rousseau, certains qu'on pourrait qualifier de jovialistes maintenant, avec le recul, disaient il y a deux ou trois jours à peine, attendons voir, parce que Justin Trudeau et François Legault sont tous les deux mal pris dans les sondages. Les deux ont intérêt à se faire aimer, à faire bouger les choses. Trudeau pourrait dire oui, je fais quelques concessions. Et puis, évidemment, c'est pas du tout ça qui est arrivé, parce que, comme le dit si bien Rémi Villemur, M. Trudeau pense à ses sondages dans le reste du Canada aussi. Hein? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses?
Il y a un peu de ça. En même temps, dans le point de presse de M. Trudeau, il y a eu un moment vraiment qui n'a pas été noté, mais qui, à mon avis, est important. Surtout parfois, M. Trudeau, son français parfois un petit peu approximatif, ce qui fait qu'il dit vraiment ce qu'il pense, parce qu'il n'a pas nécessairement...
il
n'a pas nécessairement la fine connaissance, les fines compétences en français qui lui permettraient d'exprimer les choses avec plus de subtilité. Donc, il a carrément dit le Québec a déjà plus de pouvoir en immigration. Et c'est important pour le français, mais on n'en donnera pas plus. Donc, il reconnaissait que quand c'est le fédéral qui gère la politique d'immigration au Québec, c'est pas bon pour le français. Donc,
oui, j'ai tiqué là-dessus. Il a vraiment dit...
C'est bon, je suis pas seul.
Oui, puis il a même fait le lien, donc, entre immigration et défense de la langue française. M. Trudeau, le woke en chef, le néo-gauchiste entre tous, c'est étonnant, ça, quand même.
Donc ça, c'était intéressant. L'autre chose intéressante, au-delà évidemment du refus là, que tout le monde a remarqué, sur lequel je ne reviens pas nécessairement, c'est, je ne sais pas si vous avez lu, il y a un article de Hugo Lavallée, qui est à mon avis un des meilleurs journalistes politiques au Québec, là, à Radio-Canada, qui explique un petit peu tout ce qui s'est passé et qui explique, pour avoir parlé à des sources un petit peu anonymes à la CAQ, à quel point la CAQ réfléchit beaucoup aux actions unilatérales. Puis moi, je suis de ceux dans le droit constitutionnel qui ont un peu théorisé ça, c'est-à-dire que le Québec peut faire des gains en termes d'autonomie, mais pas par les voies des négociations, des demandes à Ottawa. Ça échoue depuis des décennies.
Il faut brasser le système, mettre au défi le cadre.
Exactement. Poser des gestes que le Québec va chercher plus de pouvoir sans demander les permissions. Bon, on connaît la clause dérogatoire, l'abolition du serment au roi et tout. Et là, la question,
c'est un peu ce qu'on a fait dans la loi 96 en modifiant la Constitution à la surprise générale.
Donc, on ne va pas quémander à Ottawa pour aux autres provinces de mettre le mot nation dans la Constitution. On le met nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, quand on dit que la CAQ ne fait pas de gains en termes de constitutionnel, en fait, c'est vrai pour ce qui est des gains qui auraient passé par la voie bilatérale ou multilatérale, où là, le bilan est très, très mince. Mais au niveau des gains faits unilatéralement. Là, on est vraiment, il y a eu des gains significatifs, comparables à, peut-être pas comparables au rapport d'impôt québécois, à la doctrine Gérin-Lajoie, qui sont d'autres grands exemples d'unilatéralisme. En tout cas, il y a des gestes importants. La nation, là, bon, je viens de vous, vous en donner certains. Et là, dans l'article de M. Lavallée, on comprend que la CAQ réfléchit peut-être à quelque chose. En même temps, donc, l'idée, c'est d'utiliser les compétences du Québec, mais de faire de manière audacieuse pour contrer le fédéral et tout. Donc, ici, une façon de faire, par exemple, ce serait de faire en sorte que, pour les demandeurs d'asile, il y ait moins d'accès aux services publics québécois, à l'aide gratuite et tout, que le Québec soit moins attractif pour les demandeurs d'asile. Parce que la raison pourquoi il y a tant de demandeurs d'asile au Québec, c'est oui, il y a un aéroport international, là, mais pas que. Il y a des services publics gratuits, donc les fameux taux d'imposition, puis les services publics et tout dont on parlait tantôt. Ça attire des demandeurs d'asile plus que le Nouveau-Brunswick à côté qui en a moins. Et là, la CAQ pourrait décider d'agir.
Il y a une sorte de traitement royal ici, là, disons-le.
Comment?
Il y a une sorte de traitement royal ici pour ceux qui arrivent.
Ben, en tout cas, il y a des services publics gratuits accessibles aux demandeurs d'asile plus qu'ailleurs. Donc, est-ce que la CAQ veut jouer là-dessus? Ils l'ont déjà fait au niveau des CPE. Se sont fait rabrouer par la Cour d'appel, vont en appel. Donc, c'est pas nécessairement très populaire parce qu'évidemment, la tarte aux pommes, c'est de dire qu'on veut des services publics gratuits pour les demandeurs d'asile
et
sans réaliser
enfants.
Que ça en attire des centaines de milliers puis qu'à un moment donné, c'est plus gérable. Et là, ça permet à la CAQ d'attaquer le Parti québécois là-dessus, qui a une position pour la baisse des immigrants temporaires, mais pour les services publics gratuits, en tout cas les CPE, pour les demandeurs d'asile. Alors là, la CAQ, des fois, face au Parti québécois, aurait l'avantage d'être plus à l'attaque plutôt qu'en défense, parce que quand ils sont en défense, là, ça ne donne pas de très bons résultats pour eux. Alors, je pense qu'il faut replacer ça dans ce contexte-là.
Frédéric Lapointe, moi, j'ai entendu un journaliste cette semaine que je m'excuse de ne pas citer, j'oublie complètement de qui il s'agit, dire avec certitude, selon ses sources, que l'entourage du premier ministre, avant la rencontre avec Trudeau, ou pendant, a dit quelque chose comme, aux gens du fédéral, ben, vous savez, la demande des pleins pouvoirs, c'est une chorégraphie, c'est une figure imposée, mais on n'a pas vraiment le choix, mais bon, allez, on va se parler pour vrai bientôt. Hein? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, c'est un peu décevant d'entendre ça.
Ah non, mais je vais faire l'analyse politique.
Si c'est vrai, là.
Oui, c'est vrai. C'est une chorégraphie, un théâtre de l'absurde, hein, comme disait Rémi tout à l'heure. Et l'objectif principal, c'est de mettre le singe, comme on dit là, en sociologie là, des organisations, mettre le singe sur l'épaule du fédéral. Au fond, le problème, c'est quoi pour la CAQ? C'est que le dossier de l'immigration est insoluble. Déjà, avec les pouvoirs qu'ils ont, ils n'exercent pas l'ensemble des pouvoirs qu'ils ont parce qu'ils sont incapables des arbitrages que ça commande. On a parlé tout à l'heure des universités. Hein, accueillir moins d'étudiants, ça veut dire priver de fonds les universités, ça voudrait dire les financer de l'autre bord, ils le font pas. Les travailleurs temporaires, on va choisir de fermer l'entreprise A puis de laisser l'entreprise B ouverte parce qu'on va limiter le nombre de travailleurs qui rentrent. C'est un problème.
Laisser les fraises pourrir dans le champ.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est un problème insoluble, mais politiquement, la seule façon de s'en tirer,
parce
c'est
que vous dites
de
on aurait les moyens de prendre des décisions dans
oui,
ce domaine-là.
Oui, mais les arbitrages sont impossibles.
Alors donc on préfère.
Donc il faut mettre
le projecteur sur ce qui ne marche pas avec Ottawa.
Donc, il faut mettre en scène sa propre impuissance. Et comment mettre en scène sa propre impuissance? En demandant les pleins pouvoirs à Ottawa et en se faisant dire non. Alors, c'est du pur théâtre politique. Tant mieux si ça marche pour eux, mais il demeure que la solution, ce n'est pas mettre en scène notre impuissance. La solution, c'est effectivement avoir plus de pouvoir. C'est avoir tous les pouvoirs, c'est faire preuve de courage politique pour procéder à des arbitrages. Le Parti québécois a pour position de réaliser l'indépendance et je vous prédis que le débat portera beaucoup là-dessus, sur le fait d'avoir des pouvoirs pour faire face à ces problèmes, mais ça ne rendra pas les arbitrages sur l'immigration, mais ça ne rendra pas les arbitrages plus simples pour autant.
Rémi Villemur, sur ces arbitrages.
Bien, de toute façon, il faut avoir regardé la période de questions jeudi à l'Assemblée nationale on savait déjà que ce qui allait se produire. Paul Saint-Pierre Plamondon a demandé en dernière complémentaire à François Legault de lui dire qu'est-ce que vous allez faire si on vous refuse les pleins pouvoirs d'immigration. François Legault a regardé vers sa droite et a dit on a déjà d'autres options. D'ailleurs, on est déjà en train de les préparer. Donc, ça voulait dire s'il y avait des gens au fédéral qui écoutaient, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient perdre.
Oui, c'est vrai.
Comment ne pas tenir des négociations sans un.
Ce qui confirme ce que disait ce journaliste. Chers auditeurs, merci Guillaume Rousseau.
Ces options-là.
Merci Rémi Villemur. Merci Frédéric Lapointe. Chers auditeurs, Nick Payne vous dit merci d'être nombreux à l'écoute et à samedi prochain, même heure, même poste.